Dans ce cantique, nous avons déjà exprimé une partie de notre prière. Et nous voulons croire de tout cœur cet après-midi et entrer dans la présence de Dieu dans une foi totale. Vous savez, comme le compositeur du cantique chante ici, quand la puissance de l'ennemi nous menace et que bien des tempêtes soufflent autour de nous, nous n'avons rien à craindre. Nous restons fidèles, croyants dans la prière. Si nous nous tenons dans la prière, avec foi, nous n'avons rien à craindre. Et la réponse est la suivante. C'est alors que la fidélité de Jésus, comme il se tient à nos côtés, se révèle comme un puissant sauveur qui exauce une prière sérieuse. Parfois, l'ennemi veut nous dire, le Seigneur t'a abandonné, il n'est plus avec toi. Nous devons décider en qui nous voulons croire. Le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Qui voulons-nous croire? Je veux dire au Seigneur. Nous voulons croire au Seigneur à ce qu'il nous a dit. Nous lisons une parole de Dieu tirée du prophète Ésaïe au chapitre 50 du verset 4 avant la prière. Ésaïe chapitre 50 du verset 4. Peut-être puis-je demander que nous nous levions pour cela. Dieu le Seigneur, le verset 4, Ésaïe 50, m'a donné la langue d'un disciple pour que je sache relever celui qui est fatigué en lui parlant. Il m'éveille tous les matins. Il me touche l'oreille pour que je sois attentif à la manière des disciples. Le verset 5. Dieu le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté. Je n'ai pas reculé. Verset 6. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas couvert mon visage des insultes et des jets de salive. Verset 7. Mais Dieu le Seigneur me sauve. C'est pourquoi je ne me suis pas senti déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme du caillou, car je savais que je ne serais pas honteux. Verset 8. Oui, il est proche de moi celui qui me déclare juste, qui veut plaider avec moi. Nous nous présenterons ensemble. Qui me disputera mon droit? Qu'il s'approche de moi. Verset 9. Voici. Dieu le Seigneur me sauve. Qui me déclarera coupable? En vérité, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Verset 10. Qui d'entre vous craint le Seigneur? Qu'il entende la voix de son serviteur, qui a marché dans les ténèbres les plus profondes et qui, alors qu'aucun rayon de lumière ne brillait sur lui, a mis sa confiance dans le nom du Seigneur et s'est appuyé sur son Dieu. Verset 11. En vérité, vous êtes tous des gens qui allument le feu et qui mettent des flèches enflammées. Allez dans les flammes de votre propre feu et dans les flèches incendiaires que vous avez allumées. Voici ce qui vous arrivera de ma main. Vous serez jetés au pilori. Je me suis surtout intéressé au 4e et au 5e verset 4. Dieu le Seigneur m'a donné la langue d'un disciple pour que je sache relever par des paroles celui qui est fatigué. Il m'éveille chaque matin. Il me touche l'oreille pour que je sois attentif à la manière des disciples. Qu'il le fasse maintenant par grâce. Et au 5e verset, Dieu le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. Prions. Père Céleste, ceci est ta parole, précieuse et sainte. Je te prie, ô Seigneur, de vouloir être présent par ta présence et par l'onction de ton Saint-Esprit d'une manière toute particulière aujourd'hui. Seigneur bien-aimé, nous ne sommes pas ici pour écouter les gens ou leurs opinions. Nous sommes ici pour t'entendre, toi et ta parole. Tu as ouvert notre oreille. Tu as ouvert notre cœur. Tu as oint nos yeux. Et nous voulons entendre ce que l'Esprit de Dieu a à dire aux Églises. Seigneur bien-aimé, que la puissance de ton sang, la puissance de ta parole et la puissance de ton esprit agissent puissamment en nous tous. Que toute autre puissance et tout autre esprit recule, s'éloigne et que tu parviennes à ton plein droit par grâce. Seigneur, bénis-nous et nous serons alors bénis. Parle-nous de manière à ce que nous te comprenions bien. Ah, mon Seigneur et mon Dieu, regarde nous en grâce comme ton peuple et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à vous tous qui êtes ici et nous saluons aussi tous ceux qui écouteront plus tard cette prédication, où qu'ils soient. Nous sommes liés les uns aux autres par l'amour de Dieu. Et comme l'a dit frère Branham, tout à la fin, l'amour ne sera plus que dans l'Église épouse. Les Saintes Écritures disent l'iniquité prévaudra et l'amour en plusieurs, et l'autre traduction dit se refroidira dans la plupart. Mais aujourd'hui, nous allons parler du thème l'Église au commencement et l'Église à la fin. J'espère que Dieu me fera grâce et nous fera grâce, qu'il nous assistera et nous aidera. Les vrais enfants de Dieu ne se paient pas ou ne sont pas à payer avec de l'or ni avec de l'argent. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas été rachetés avec de l'or et de l'argent, mais avec le sang précieux de l'agneau. Précieux, précieux aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, je vais peut-être devoir faire quelques remarques et je vous prie de les comprendre correctement. La plupart de ceux qui sont ici et qui vont entendre cette prédication sont en effet familiers avec le message à la fin des temps. J'ai aussi été heureux de voir que certains sont venus avant le service divin et ont exprimé spécialement combien les prédications de frère Branham, et en particulier la dernière, leur sont précieuses. Et cela me fait plaisir de les entendre, car je sais que c'est la parole de Dieu. Et vous verrez que tout à la fin, il sera révélé que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais vraiment la parole révélée de Dieu en ce temps. Nous allons toucher à certaines choses cet après-midi, et comme nous l'avons déjà remarqué, j'espère que nous le recevrons et le comprendrons correctement. Pour ceux qui ne connaissent peut-être le message divin que depuis peu, je voudrais vous dire ceci. Soyez patients. Vous ne pouvez pas comprendre et saisir toutes les choses en même temps, mais Dieu vous conduira dans toute la vérité. Le temps presse, il touche à sa fin. Et nous voyons que demain, les négociations reprendront dans la ville mondiale de Genève. Tout doit aller vers la paix. Et l'Écriture et les Saintes Écritures disent dans 1 Thessaloniciens 5, « Quand ils diront, maintenant c'est la paix, maintenant il n'y a pas de danger, alors la ruine les précipitera soudain. » 1 Thessaloniciens 5, 3. Donc nous voyons tant de signes, des temps qui attirent tellement notre attention que seul un aveugle peut passer à côté et que seul un homme qui détourne délibérément le regard ne le voit pas. Tous les autres le verront, en particulier ceux pour qui la parole de Dieu est devenue précieuse pour ce temps et est devenue une révélation. Je voudrais lire d'abord un verset, c'est le dernier du chapitre 21 des Juges, avant d'aborder le chapitre 1 de Romains. Dans le chapitre 21 des Juges, qui est le dernier chapitre, le dernier verset dit ici, verset 25, Juges 21, « Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore de roi en Israël. chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous savons que Dieu a fait sortir le peuple sous Moïse. Il a fait entrer sous Josué. Et que plus tard, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et la période des juges se termine par cette étrange déclaration. Chacun a fait ce qui lui a semblé bon. En d'autres termes, personne ne faisait ce que Dieu avait dit, mais chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ne perdons pas de temps, mais allons directement au chapitre 1 de Romains. Ici, je lis du verset 1. Romains 1, verset 1. Moi, Paul, un serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel pour être apôtre afin d'annoncer le message du salut de Dieu, verset 2, qu'il a promis d'avance par ses prophètes dans les saintes écritures. Je voudrais ici souligner quelques points. Tout d'abord, la pensée, l'évangile de Dieu. Il y a tant de choses appelées évangile dans notre temps. Ici, Paul, conduit par l'Esprit, a écrit l'évangile de Dieu. Et il en donne directement l'explication au verset suivant en disant que Dieu a promis d'avance par ses prophètes dans les saintes écritures. L'évangile de Dieu est fondé sur la parole prophétique. Il est orienté vers la prophétie. Et si nous prenons le commencement, et c'est bien la première lettre que Paul a écrite, en tant que premier messager de la du premier âge de l'Église, pardon, nous devons nous rendre alors compte qu'à la fin du temps de la grâce, nous devons revenir à l'origine directe, au commencement, pas seulement à l'époque des apôtres. Si nous voulions aujourd'hui fixer une période de 40 ans du christianisme originel, nous pourrions en retirer quelques années et constater que très tôt déjà, de fausses doctrines ont été introduites à propos de diverses choses. Mais le début, l'origine, était libre de toute influence humaine, libre de tout faux enseignement, libre de toute influence d'autres esprits. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu. Et ce que Dieu a fait parmi son peuple. Nous savons que le commencement était dans la clarté absolue de Dieu, sans aucun mélange, sans rien qui aurait été apporté de l'extérieur. Avant la Pentecôte et depuis la Pentecôte, Pierre a déjà tout classé, ordonné selon la parole prophétique et l'a placé sur une base biblique. Dans les années qui ont suivi, diverses difficultés sont apparues. Les uns sont venus avec la circoncision, d'autres se sont fait baptiser pour les morts. Les troisièmes disaient que la résurrection avait déjà eu lieu. Et si l'on lit les épîtres plus tard, on voit quelle détresse s'est installée dans les différentes assemblées et parmi les croyants après seulement quelques années du début direct. Et je voudrais que nous voyions aujourd'hui très clairement l'évolution divine. Le début initial était sans aucune autre influence. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, l'Église de Dieu étaient uniquement sous l'influence divine et étaient conduites par le Saint-Esprit. Puis est venu le développement auquel nous venons de faire allusion. Maintenant, nous revenons en arrière à travers tous ces problèmes, à travers tous ces besoins, à travers toutes ces difficultés en arrière et en arrière, jusqu'à ce que nous arrivions finalement à nouveau là où l'Église se trouvait au début, où il n'y a pas d'autre influence, où il n'y a pas de connaissances propres, où il n'y a pas d'enseignement étranger, où il n'y a plus rien de ce que les hommes y ont ajouté et retranché. Maintenant, vous allez dire, mais comment allons-nous reconnaître cela? Je pense que c'est le moment et l'heure où nous devrions comprendre que c'est pour cela, justement, que le message a été envoyé, pour que nous soyons vraiment tout à fait maintenant à la fin, là où Dieu veut que nous soyons. En attendant, et nous y sommes encore, oui, j'espère que ce n'est pas pour longtemps, nous devons, et nous le verrons ce soir ou cet après-midi, nous devons reconnaître que Dieu est avec nous sur ce chemin. Et s'il a ouvert ton oreille et la mienne, nous ne devons pas nous y opposer. Et ce qu'il a dit, il le pense réellement. Il le pense vraiment. La question numéro un est la suivante. Ne croyons-nous qu'à un seul évangile? Ou croyons-nous l'évangile de Dieu tel qu'il a été promis et annoncé à l'avance dans les Saintes Écritures par les prophètes? Nous verrons que Paul donne un avertissement très particulier, par exemple, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11. Il dit ici, 2 Corinthiens 11, verset 1, si seulement vous acceptiez de ma part un peu de folie, n'est-ce pas, vous, tel que vous le faites pour moi, car, verset 2, je suis jaloux de vous d'un zèle divin, puisque je vous ai fiancé à un seul homme, pour vous amener à Christ comme une vierge pure. Verset 3, mais je crains que comme le serpent a autrefois séduit Ève par sa malice, ainsi vos pensées ne soient attirées vers le mal, loin de la simplicité et la pureté des sentiments à l'égard de Christ. Maintenant, écoutez le quatrième verset. « Car si quelqu'un s'amène vous annoncer un autre Jésus que nous n'avons pas annoncé, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre message de salut que vous n'avez pas reçu, vous le supportez parfaitement. C'est un très mauvais reproche, une très mauvaise réprimande. Trois choses sont particulièrement soulignées ici. Si Jésus est prêché différemment de la manière dont il a été prêché par les apôtres, si un autre esprit est à l'œuvre comme il l'était au début, et si un autre évangile est prêché. Vous savez que Paul l'a particulièrement souligné dans Galates 1 et qu'il a placé toute cette affaire sous le signe de la malédiction en disant, si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit, et vous pouvez tous le lire. C'est donc une chose bien plus sérieuse que ce que nous pensons parfois. En tant qu'être humain, nous avons tendance à entretenir l'amitié. Il doit en être ainsi. Mais pas au détriment de la vérité. Pas au détriment de la parole révélée. Car Paul dit, si je veux être l'ami des hommes, je suis alors l'ennemi de Dieu. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Si nous allons à Galates 3, nous y trouvons en fait une chose très étrange. Et je ne sais pas, mais j'espère que nous serons un peu choqués aujourd'hui. Voici ce qui est dit dans Galates 3, au verset 1. « Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé, puisque Jésus-Christ a été peint devant vous comme crucifié ?» Verset 2. Je ne veux apprendre de vous qu'une seule chose. Avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, il s'agit ici de personnes qui ont reçu l'esprit et qui, malgré cela, sont appelées des personnes qui ont été ensorcelées. Je vais vous dire pourquoi j'en arrive là, car j'ai moi-même été choqué ces dernières semaines, alors qu'un homme du nom de John Tott, des États-Unis, qui était l'un des principaux médiums, l'un des hommes les plus célèbres dans ces cercles, est venu à la foi, donc a cru, et a donné quelques noms ensuite de ceux qui occupent les plus hautes positions là-bas dans les cercles des médiums. Et je suis le dernier. Vous qui me connaissez, vous le savez bien. Je n'ai cité aucun nom dans le passé. Je n'ai touché à personne en public ni en privé. Mais je crois que le temps est venu pour nous de reconnaître que Dieu a envoyé un prophète avec sa parole. Et le Seigneur dit, « Je suis venu dans ce monde pour une séparation. Jean 9, 39. Le monde veut mélanger. Dieu veut séparer. Dieu veut mettre à part. Dieu veut séparer. Cet homme a notamment, pardonnez-moi, je le dis ici, il l'a dit, il emporte la responsabilité. Il a notamment cité le nom de la sœur de l'ex-président des États-Unis parmi les médiums les mieux classés qui puissent exister. Les plus hauts donc. Et le fait est que si l'on dit quelque chose qui n'est pas vrai, on peut certainement être poursuivi. Donc, la raison pour laquelle je dis cela aujourd'hui est la suivante. J'ai participé à un congrès, il n'y a pas longtemps, à Berlin, où cette femme que l'homme a nommée était l'oratrice principale. Et c'était un congrès charismatique. J'étais parmi ces 2500 personnes. C'est ainsi qu'on l'a estimé. Je l'ai vu sur le devant du podium. J'ai entendu les applaudissements. Et pas seulement une fois, mais encore et encore. Et je l'ai écouté parler d'un mouvement puissant qui s'étend sur toute la planète. Et quelqu'un, un citoyen américain, était assis à ma droite. C'était une assemblée mixte. Beaucoup étaient venus d'outre-mer. Et l'homme à ma droite prononce ces mots en anglais. She is a witch. Et cela signifie en français, c'est une sorcière. Et je me suis dit en moi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, nous arrivons à un point où nous n'avons aucun intérêt ici à mettre les gens à nu. Vous pouvez le comprendre. Mais que nous n'avons pas non plus intérêt à fermer les yeux sur le mélange religieux qui a lieu en ce moment. Nous devons aussi le comprendre. Et vous savez, ces choses m'ont traversé l'esprit. J'ai écouté cette cassette en anglais. Je me suis simplement dit, comment est-ce possible? Maintenant, nous en arrivons à ce point. Il y a une femme qui fait partie des plus hauts placés dans les cercles de sorcellerie d'Amérique. Et elle parle en tant qu'oratrice principale dans un congrès charismatique. Et tous entrent dans une frénésie religieuse. Maintenant, je me demande, quand Dieu nous ouvrira-t-il les yeux sur ce dont il s'agit maintenant? Une autre chose qui m'a beaucoup inquiété, et ce sont deux ou trois choses, et vous savez que frère Branham a souligné à maintes reprises certains passages de la Bible. Entre autres, Matthieu 24. Que ces deux choses, à savoir le divin et le diabolique, seraient si étroitement juxtaposés, si proches l'un de l'autre, qu'il se pourrait que même les élus soient séduits dans l'erreur. Comme je l'ai dit, j'étais assis parmi l'auditoire. Je n'ai pas participé à ce qui se passait là, à ce qui se passait là-bas, parce que je ne faisais pas partie de l'affaire. Mais je voulais quand même voir ce qui se passait Et tout d'un coup, tout est devenu comme une extase. Et si l'on regarde cela de l'extérieur, une atmosphère magnifique que l'on pourrait se dire, oh, si seulement c'était comme ça parmi nous. Mais je renonce à une telle atmosphère. Vous savez une chose, et si ce n'est pas le cas, vous le savez maintenant. L'Esprit de Dieu ne sera efficace qu'en accord avec sa parole révélée pour ce temps. C'est une autre chose qui m'a choqué. Je ne sais pas, je n'ai plus du tout été nulle part pendant toutes ces années, car je sais le chemin que je dois suivre et la responsabilité du message que Dieu m'a donné. Je pensais en moi-même, pourquoi devrais-je aller ici ou là? J'ai ce que Dieu a donné. Mais cela m'a fait du bien de regarder ici et de regarder là. Quand le président international des hommes d'affaires a fait sa déclaration et a dit, ce qui nous unit, c'est l'enseignement et la reconnaissance de la Trinité divine. Il m'est effectivement venu à l'esprit, non seulement d'anciens péchés, mais aussi de nouveaux péchés. Le prophète de Dieu, William Branham, a reçu une révélation de Dieu et il a vu un homme qui devait être son père. Le sermon est-il déjà sorti ou va-t-il sortir? Oui, le sermon est déjà sorti. Et il a vu un homme qui devait être son père. Il avait une massure à trois branches dans la main. Et il a frappé une femme qui devait être sa mère. Donc, spirituellement parlant, hein, vous pouvez tous lire le sermon. C'est alors que le Seigneur dit à Frère Branham, c'est la doctrine de la Trinité suivie du baptême aux trois titres, cette massue. Maintenant, la question que nous devons nous poser est de savoir où nous devons prendre notre position spirituelle. Il y a un prophète de Dieu qui n'est pas inconnu de cet homme qui a fait la déclaration qui est sorti et entré dans sa maison, qui a dit par révélation divine, ta sœur mourra à 2 heures moins le quart en tel et tel jour. Beaucoup ont prophétisé. Fille de Sion, tu ne mourras pas. Tu retrouveras la santé et l'allégresse. Et cet homme appelle Frère Branham et lui dit, écoute, nous avons eu une heure de prière et il y avait quelques révélations, entre autres, fille de Sion, tu ne mourras pas, tu vivras et tu seras placé en bénédiction. Et Frère Branham a simplement dit au téléphone, je ne sais pas ce qui a été dit là-bas. Je sais une chose. Le Seigneur m'a dit qu'elle mourrait, et cela en tel et tel jour, à telle et telle heure. Ce ne sont pas des gens ignorants. Ce ne sont pas des gens qui sont du peuple ordinaire, mais qui sont au sommet, voire à la tête, et qui conduisent, pour ainsi dire, le peuple de Dieu dans le piège. Mais il faut que cela se fasse d'une manière qui interpelle, qui arrive, qui est reçu. L'ennemi n'est jamais venu avec un pied de cheval. Personne ne l'a jamais vu ainsi. Mais lorsque cette déclaration a été faite, selon laquelle ce qui unit, c'est la doctrine et la foi dans le Dieu trinitaire. Alors j'ai su combien l'horloge avait sonné quand j'ai entendu cette déclaration. Et croyez-le bien, frères et sœurs, et chers amis, si nous ne le comprenons pas encore maintenant pleinement, l'heure est très proche où nous comprendrons ces choses. Et si je dois en faire personnellement l'expérience, et à l'époque, Dieu merci, je ne savais pas qui était la femme acclamée là-devant, qui a pris la parole, mais n'a rien dit de la rédemption, n'a rien dit du sang versé. Seulement, elle a parlé d'un grand courant. Nous avons besoin d'un courant, mais pas d'un tel courant, mais du courant de Dieu qui se manifeste parmi son peuple dans ce temps. Je sais qu'il n'est pas populaire de dire de telles choses. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai perdu tout ce qu'un homme pouvait avoir d'honneur et de prestige. Et à partir de maintenant, je peux me permettre de dire, de prêcher la parole de Dieu en toute clarté et en toute vérité. Et si sur 10 000, il n'en reste que 100, que ces 100-là sachent que Dieu a envoyé son prophète et qu'il nous a parlé en ce temps. Les personnes qui ont entendu la parole de Dieu et pour qui elle est devenue une révélation dans leur cœur ne peuvent pas faire autrement. Mais parfois, Dieu utilise des personnes ou des circonstances pour nous faire comprendre le sens et l'importance d'une chose. Excusez-moi si je fais encore une remarque. Et je la fais uniquement parce que j'ai lu dans l'avion le Time, le plus grand magazine hebdomadaire américain. Et il y a une grande histoire à la page 32 de Tulsa, Oklahoma. Et je ne la donne que parce qu'elle m'a touché d'une manière ou d'une autre pour montrer de quelle manière les gens peuvent être efficaces et faire croire tant de choses aux autres qui les croient ensuite. Ici, un homme mondialement connu, y compris en Europe, a soudain voulu construire un grand hôpital, pas seulement son université où enseignent des professeurs, mais aussi un hôpital. La ville l'a refusé parce que beaucoup d'hôpitaux étaient à moitié vides. Et soudain, cet homme dit, ou c'est rapporté ici, l'argent a commencé à entrer après que l'évangéliste a raconté sa visitation, qu'il a vu Jésus à 900 pieds de haut, c'est-à-dire en forme corporelle. 900 pieds, c'est 300 mètres. Je me souviens du témoignage de notre bien-aimé frère Branham. Il a vu son vêtement agité par le vent. Et puis tout à coup, il lui a parlé et a dit « Jésus ». Et alors le Seigneur s'est tourné vers lui et l'a regardé. Et il est tombé par terre et ne s'est réveillé que le lendemain matin. Et il a dit à l'époque, C'est enregistré dans son témoignage qu'il avait vu l'ange du Seigneur. Et il ajouta, l'ange du Seigneur était plus grand de forme et plus fort. Et il ajoutait, le Seigneur n'était pas d'une si grande stature, et il l'a décrit avec précision. Ce que je veux dire ici, c'est ceci. Rien n'a tiré, rien n'a pu être fait, jusqu'à ce que cet homme annonce soudainement. Rien n'a attiré, rien n'a pu être fait, jusqu'à ce que cet homme annonce soudainement, j'ai vu Jésus de 300 mètres de haut. Et il m'a dit, construis seulement tes 3000 partenaires feront en sorte que l'argent soit réuni. 150 millions de dollars, soit l'équivalent de 300 000 francs suisses. Maintenant que nous attendons la venue du Seigneur, je vous le demande, si Dieu avait donné à ces hommes, il y a toutes ces années, la grande opportunité d'entendre la vérité et qu'ils n'ont pas accepté la vérité. Ce prédicateur a prêché à 35 personnes, année après année. Il était atteint de tuberculose et n'en pouvait plus. Puis, il a été guéri lors d'une réunion. La guérison divine du corps n'entraîne pas toujours la guérison de l'âme. Ce que Dieu fait sur un homme est fait sur un homme. Mais ce que Dieu fait dans un homme, c'est ce qui est fait dans un homme. Et la chose ou le sérieux de la chose est bien celle-ci. Ce sont tous des gens qui savent exactement ce que Dieu a fait. Oui, qui sont venus voir Frère Branham et qui ont dit, écoute donc, le peuple de Dieu croit que le Seigneur t'a désigné comme prophète. Mais arrête donc avec toutes ces choses que tu continues à produire. Laisse donc les femmes tranquilles et ainsi de suite. Et Frère Branham ajouta, comment pourrais-je dire autre chose que ce que Dieu m'a ordonné de dire. Frère Branham aurait pu être l'homme le plus populaire. Le monde aurait pu être à ses pieds avec un si grand don. Mais Dieu, avec humilité, a fait exactement ce qu'il avait prévu de faire. Pourquoi ai-je mentionné ces trois cas aujourd'hui? Pour la première fois depuis toutes ces années, pour que vous sachiez, tous ceux qui rejettent consciemment la vérité de la parole révélée en ce temps s'ouvrent automatiquement aux mensonges et ils doivent croire aux erreurs les plus puissantes parce qu'ils n'ont pas reçu et accepter la vérité. La Bible parle en effet de l'amour, de la vérité. Il faut avoir de l'amour pour la vérité. Si l'on n'a pas d'amour pour une chose, elle ne peut pas s'épanouir. L'amour de la vérité. Même si cela fait mal, même si cela coupe, nous voulons quand même entendre la vérité. Car seule la vérité nous rendra et pourra nous rendre libres. Tout le reste sera emporté par le large courant. Que diriez-vous donc si vous entriez dans une assemblée où tout semble vraiment indiquer que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et que vous entendiez plus tard qui a parlé là, devant? Qui c'était et quel esprit était à l'œuvre? Que diriez-vous? Et chose étrange, j'ai parlé ces derniers jours à quelqu'un qui est très proche de celui qui a tout organisé. Et je lui ai dit, frère, mon frère, vous avez tous donné de la voix. Vous avez tous chanté, vous avez tous applaudi. Je dis, maintenant je te demande. Et lui aussi était au courant de la chose. Et je lui ai dit, maintenant je te demande. Ne sont-ils pas tous ensorcelés et envoûtés par une influence religieuse? Et ne savent-ils pas faire la différence? Lorsque Paul écrit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Ce n'est pas une simple affaire, mais il y a alors une puissance démoniaque derrière tout cela. Et savez-vous ce que dit la parole de Dieu? La désobéissance est comme le péché de sorcellerie et la volonté propre, la propre volonté est comme l'idolâtrie. 1 Samuel 15, verset 23, Galates 3, verset 1. Oui, où en sommes-nous alors après que la parole de Dieu a été révélée et que les hommes ont appris que la divinité sur le baptême, sur la divinité, sur le baptême, sur le péché originel, sur tout cela, et ont eu la possibilité de croire. Et sont pourtant passés à côté de tout, comme si Dieu n'avait rien fait du tout. Je ne veux rien d'autre aujourd'hui que de voir Dieu entrer dans ses droits. Et Dieu n'arrive à ses droits que là où nous, en tant qu'êtres humains, pouvons distinguer où il est efficace, là où Dieu agit et est efficace. Et je dois honnêtement avouer que depuis que j'ai entendu cela, la prière ne cesse d'envahir mon cœur, ô Dieu. Accorde-moi, ainsi qu'à ton peuple, le don du discernement des esprits, afin que l'on puisse vraiment distinguer d'où viennent les choses. Et puis, on voit aussi où elles vont. Si elles viennent de Dieu, elles nous ramènent à Dieu. Alors, elles ne conduisent pas à et ne débouchent pas sur un conseil œcuménique ou un conseil mondial des églises ou à Rome. Alors, elles aboutissent à Jérusalem dans le christianisme originel, là où tout est libre de toute sorcellerie, de tout envoûtement, de toute fausse influence. Là où tout est placé à nouveau sous la directe direction et conduite du Saint-Esprit. On peut lire ces choses, mais lorsqu'elles sont réellement devant les yeux, il en va tout autrement. Quand Paul écrit, qui vous a ensorcelé? Galates 3. Et savez-vous qui a été ensorcelé et charmé? Ceux qui avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu. Ceux qui avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est là que réside la tragédie de la chose. Sinon, cela ne fonctionnerait pas du tout. Sinon, il n'y aurait pas du tout les mêmes caractéristiques. Les mains se lèvent, l'adoration monte. Tout est exactement comme avant, extérieurement, comme avant. Et je vous demande, à vous qui avez lu les prédications de Frère Branham et qui... Et oui, à partir de et oui, qu'a vu Frère Branham, qui dirige l'Église et qui la possède, la précède? Qu'est-ce que Dieu lui a révélé? Qui donc? Dois-je le dire? Bien sûr. Il a vu qu'une sorcière précédait tout cela. Peut-être que les non-initiés penseront aujourd'hui, frère, tu devrais nous annoncer plutôt l'évangile, s'il te plaît. Mais l'évangile n'est pas du lait écrémé. L'évangile de Dieu inclut toute la parole prophétique et nous ouvre les yeux et les cœurs dans ce temps, en ce moment, pour ce que Dieu a déterminé pour nous. Je sais bien que je viens de l'agriculture. J'ai bien supporté tout le reste. J'ai supporté le lait épais et toutes sortes de choses, mais le lait écrémé, je ne l'ai jamais supporté. J'ai besoin d'un lait sur lequel la crème se trouve le plus haut possible. L'évangile de Jésus-Christ est une force divine, est une puissance divine, une puissance de Dieu. Ce n'est pas une chose écrémée dont on a enlevé la crème, mais elle contient tout ce que Dieu y a mis. Que personne ne sorte d'ici pour en parler ou porter un jugement. Ce serait manquer le but et l'objectif. Dieu veut seulement nous aider, toi et moi. Il veut nous donner de la clarté pour que nous puissions distinguer ce dont il s'agit maintenant. Et lorsque Paul dit, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu tel qu'il a été annoncé d'avance, Romains 1, dans les saintes écritures par les prophètes. C'est ce que j'ose dire aujourd'hui. Frère Branham, le serviteur et prophète envoyé par Dieu, nous a annoncé l'évangile de Dieu dans ces derniers temps, avec tout ce que les apôtres et les prophètes ont laissé dans les saintes écritures, ont transmis dans les saintes écritures. Dieu l'a révélé. Et vous verrez que l'appel à sortir ne concernera qu'une petite foule. Au jour de notre Seigneur, ils étaient des milliers et des milliers. Et dans la lettre circulaire qui sort maintenant, je veux publier quelques photos des réunions des premières années de frère Branham. Déjà en 1946, 1947, 1948, ce ne sont pas seulement des milliers, mais des dizaines de milliers qui se sont rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, quelqu'un pourrait demander, tout cela n'était-il pas alors en vain? Est-ce que cela en valait même la peine? Oh oui, cela en valait la peine. Cela en valait la peine pour toi et pour moi. Cela en valait la peine pour nous et pour tous ceux que Dieu a interpellés, qu'il a appelés à sortir, qu'il a éclairés et à qui il s'est révélé. Pour tous les autres, la chose ne vaudra rien. Au contraire, elle leur fera obstacle. Et vous savez, si vous lisez les prédications de frère Branham, combien il est parfois dur avec ces choses. Non pas parce qu'il le voulait, il le devait. Il était sous l'autorité d'un ordre divin. Il ne pouvait pas faire autrement. S'il vous plaît, comprenons aujourd'hui, dans ce service divin, que le Seigneur ramène maintenant l'Église au commencement direct. Il y a eu un premier jour, une première semaine, un premier mois, une première année, et il y a eu tout ce qui a suivi ensuite. Maintenant, nous revenons en arrière. Il y aura la dernière année, le dernier mois, la dernière semaine, le dernier jour. Cela viendra comme cela a commencé. Cela se terminera à nouveau. Et alors la question se pose. Où en es-tu? Où en suis-je? Où te tiens-tu? Où me tiens-je? Où est-ce que je me tiens? Dieu a-t-il pu, par sa parole, envoyer et par son esprit agissant en accord avec ses paroles, accomplir en toi? C'est pourquoi elle a été envoyée. A-t-il pu le faire en moi? Je veux et nous voulons tous ensemble demander à Dieu de nous aider. Parfois, j'ai l'impression que Dieu n'arrive pas tout à fait à ses fins. Et j'ai été heureux lorsque frère Schmitt a dit il y a une quinzaine de jours, « Frère, réunissons-nous chaque soir pour la prière. » Et nous nous sommes réunis chaque soir pour la prière. Chaque soir, les frères vous saluent d'ailleurs. Et je vous dis que nous n'avons lu qu'une seule parole et n'avons pas prononcé une seule phrase. Lu et nous nous sommes à genoux et nous avons prié. Je veux dire que le temps est très proche et je crois que cela devrait nous traverser de part en part. Lorsque nous entendons parler aujourd'hui en ce lieu de l'énorme mélange qui existe. Tous sous une même tête. Tout sous l'influence de la même chose. Et devant, il y a une femme qui va de cercle en cercle aux États-Unis. Et je vous demande, nous sommes aujourd'hui dans la ville de Zurich. C'est ici, dans cette ville, qu'il est arrivé en août 1955 que Frère Branham a été conduit dans une réunion spirite. Et sous ses yeux, après que la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été prononcée, une table dans laquelle il n'y avait pas de clous s'est envolée sans qu'aucun homme ne la soulève. Et le médium a dit à Frère Branham ou à tous les autres, l'homme qui est entré ici ne croit pas. Alors Frère Branham a dit, je ne crois pas ce qui se passe ici, car cela vient du diable. Le médium ajouta, l'esprit dit, c'est de Dieu. Et là, Frère Branham n'en pouvait plus. Il a dit, ce n'est pas de mon Seigneur, de mon Jésus qui m'a racheté. C'est de la sorcellerie. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a dit au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il a ordonné que la table tombe par terre. Et elle s'est brisée en plusieurs morceaux. Pourquoi avons-nous parlé de cela aujourd'hui? Peut-être que le temps est déjà plus avancé que nous ne pouvons le comprendre ou le croire. Et le mélange se poursuit jusque dans les cercles de ceux qui croient au message de Dieu, au message de l'heure. Frère Branham n'a-t-il pas souvent pris Genèse chapitre 1? Chacun produisait selon son espèce. Dieu a planté les différentes semences et chaque chose a produit selon son espèce. Dieu produira une parole épouse, une épouse parole, aussi sûrement que la parole de Dieu a été révélée. Chaque chose est produite selon son espèce. Les fils de Dieu seront manifestés à la fin. J'espère que personne n'en s'en offusquera. Mais ouvrez vos yeux. Demandez à Dieu de les oindre d'une sainte onction pour les yeux. Nous n'avons pas beaucoup de temps, comme l'a dit Esaïe dans la parole d'introduction. Le Seigneur éveille chaque matin mon oreille. Tu peux peut-être dire, j'ai réglé mon réveil. Mais le prophète n'avait pas besoin d'un réveil. Il a dit, tu me réveilles et tu éveilles mon oreille tous les matins. Oh, cette communion avec Dieu, ce lien profond avec lui. Et puis aussi le lien et la communion entre nous. Mais il doit s'agir d'une communion de l'esprit. Pas seulement d'un esprit, mais de l'esprit de Dieu. L'esprit qui agit sur tous les prophètes, sur tous les apôtres. Oui, qui agit jusqu'à aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant. Qui agit jusqu'à aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant. Permettez-moi de conclure en disant, au temps des juges, comme nous l'avons lu dans le dernier verset du dernier chapitre, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais ensuite vint le temps des rois. Et si vous ouvrez une seule page après des chapitres sur les juges, vous êtes déjà dans le livre de Ruth. Et voici Boaz. C'est là qu'il est question pour la première fois de Bethléem, d'Ephrata. Et vous pouvez lire cela dans le prophète Michée au chapitre 5. Au premier verset, après l'histoire des juges, Dieu a fait commencer immédiatement l'histoire du salut. Et nous voyons la lignée d'où est issu David, puis plus tard le fils de David. Pendant la période des juges, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais nous avons probablement dépassé la période maintenant des juges. La période des juges, chacun fait ce qu'il veut, est derrière nous. J'ai parfois l'impression que les enfants de Dieu vivent dans encore dans la période des juges, tout le monde se juge, tout le monde se détruit et tout le monde fait ce qui lui plaît. Mais tout s'est terminé avec le dernier chapitre et le dernier verset. Une nouvelle période divine a commencé. Nous devons comprendre qu'une période s'est terminée et qu'une période prophétique a commencé maintenant avec l'histoire divine du salut. Et je suis de tout cœur reconnaissant au Seigneur de ce que nous n'avons pas seulement un évangile, mais l'évangile de Dieu. Le plein évangile, avec tout ce que tous les prophètes et tous les apôtres ont dit. Et c'était ainsi au début, et cela doit être ainsi maintenant à la fin. D'une manière ou d'une autre, et à un moment donné, nous devons avoir laissé tout le reste derrière nous et être revenus au premier amour, en Jésus-Christ, notre Seigneur, totalement soumis à sa parole et à son esprit. Dieu peut le faire et Dieu le fera. Es-tu prêt à suivre? Paul a dit, qui vous a ensorcelé? Avez-vous reçu l'esprit à cause des œuvres de la loi? Ou à cause de la prédication de la foi. Les gens qui avaient reçu l'esprit ont été plus tard ensorcelés. Ont été par la suite ensorcelés. Et nous avons constaté l'évolution. Et savez-vous ce que Paul dit encore? Il dit, si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres. Prenez garde de ne pas être dévorés les uns par les autres. Galates 5, verset 15. L'a-t-il dit oui ou non? Où sont les morsures et les dévorations parmi les croyants? Est-ce que ce sont là des caractéristiques divines? Est-ce que c'est la nature de Jésus-Christ? Aujourd'hui, Paul crierait dans l'assemblée des croyants et demanderait, vous qui êtes divisés, qui vous a ensorcelés? Et vous n'avez qu'à lire le prophète Jérémie 51 et les autres, puis le Nouveau Testament. Ils ont bu à la coupe magique et ils chancellent et vacillent de côté et d'autre. Dieu nous a donné la coupe du salut. Sortons du temps des juges et ne faisons plus ce que nous voulons et ce qui nous semble bon, mais entrons maintenant dans l'histoire divine du salut afin que Dieu puisse faire ce qu'il a décidé de faire. Car après tout, c'est pour cela que nous sommes ici, pour que Dieu puisse faire ce qu'il s'est proposé de faire. Es-tu et suis-je prêt à cela alors que Dieu nous accorde son amen et l'accomplissement par grâce. Que nous accorde le vouloir et le faire, son amen et l'accomplissement par grâce. Amen, amen. Levons-nous et prions. Et soyons en prière devant la face du Seigneur. Il est écrit dans Moïse qu'aucune malédiction ne s'attache à Israël. Balaam voulait maudire, il devait bénir. Et il dit, comment pourrais-je maudire ce que Dieu a béni? Et il s'exclama même, celui qui te bénit, Israël, est béni. Le peuple de Dieu est destiné à être béni par Dieu, à marcher sous sa garde et la direction de son esprit, à considérer sa parole comme un guide. Et c'est à cela que nous voulons appartenir, tous ceux qui sont ici aujourd'hui et tous ceux qui entendront cette prédication quelque part, même si c'est dans le lointain Brésil. Qu'ils soient bénis et qu'ils sachent que Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener à la fin, au commencement, à l'origine directe, où seule la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu règnent. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais nous voulons nous laisser conduire par Dieu et ne pas abandonner jusqu'à ce que nous ayons atteint le but. Sachez que la parole de Dieu a été prononcée pour nous appeler et nous mettre à part afin que Dieu puisse arriver à ses fins avec nous. Nous ne cherchons pas les grandes choses que les hommes appellent grandes. Nous regardons vers le grand Dieu qui se révèle et nous parle en toute simplicité. Alors que nous avons incliné la tête et que nous sommes en prière devant le Seigneur, je voudrais demander s'il y a ici aujourd'hui quelqu'un qui veut consacrer sa vie à Dieu. Alors, levez brièvement la main. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Il confirmera la parole. Et même si c'est tout à fait à la fin, ce sera cependant comme au début, au commencement. Unanimité, union, commun accord, total dans le Seigneur et uni entre eux. Personne ne dit plus « ceci est à moi, ceci est à toi ». Tout est totalement un. Les choses terrestres tombent, le divin prend la première place. Et nous nous dirigeons vers ce but, je le sais. L'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur pour que je dise « comme était le commencement, ainsi sera la fin ». Nous revenons vers ce point. Et alors, le premier amour, les premières œuvres, alors tout sera manifesté. Prions maintenant ensemble. Vous pouvez tous prier et remercier le Seigneur. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions ensemble de nous permettre de méditer ta parole en ce lieu aujourd'hui. Quelle grâce, ô Dieu, que nous puissions avoir l'évangile de Dieu fondé sur la parole prophétique. Seigneur bien-aimé, nous voulons t'annoncer comme le crucifié, comme Jésus de Nazareth, comme celui qui est, qui était et qui vient. Nous voulons entendre l'évangile, prêcher au commencement et vivre la même chose. Seigneur fidèle, tu nous y conduis pas à pas. Et même si cela semble parfois difficile, tu avances quand même avec nous. Parfois, ô Dieu, nous avons l'impression de marcher sur la même place, comme si nos pieds bougeaient et que nous ne semblions pas avancer. Et pourtant, tu fais ton chemin avec nous. Seigneur bien-aimé, voici ta troupe rachetée par ton sang, ta propriété des hommes que tu as aimés, que tu as fait sortir, que tu as appelés, que tu as couronné de grâce et de miséricorde. Tu nous as rachetés de la perdition, Tu as pardonné nos fautes et nos péchés. Tu nous as guéris. Ô Seigneur, que ta bénédiction repose sur nous tous d'une manière particulière. Nous voulons que l'action de ton esprit soit en accord avec ta parole. Seigneur bien-aimé, ne permets pas que les tiens soient entraînés dans la tromperie. Donne-nous le don du discernement des esprits. Aie pitié de nous, ô Dieu. Aide-nous, éclaire-nous. En effet, tu as dit, il y aura de la lumière au temps du soir. Seigneur, nous avons derrière nous une journée nuageuse, mais au moment du soir, la lumière est venue. La lumière de ta parole a brillé. Seigneur bien-aimé, aie pitié de nous maintenant, surtout de ceux qui ont levé les mains. Tu connais leurs besoins. Tu sais ce qu'ils demandent. Maître fidèle, bénis tous ceux qui se sont recommandés à nos prières. Bénis tous ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, bénis-nous et nous serons bénis. Aide-nous et nous serons aidés. Adoration et gloire à ton Saint-Nom. Amen.